Bonjour. On vous rappelle, pour ceux qui ont encore des paquets pour les enfants, pour les confectionner, vous pouvez les descendre maintenant. Voilà. Alors, chers frères et sœurs en Christ, chers visiteurs, pour le groupe Mission, c'est un honneur de vous accueillir ce dimanche 7 novembre, qui, dans le monde entier, est un jour consacré à l'Église persécutée. Pour ceux qui sont ici présents ou bien pour ceux qui sont sur Internet, qui nous regardent, nous vous souhaitons la bienvenue.
Voilà. Donc, vous avez remarqué les chaises, nous les avons détachées. Ah, pardon, nous avons détaché les chaises parce que tout à l'heure, on aura des groupes de prière ensemble. Et puis, comme Thierry vient de le dire, en ce moment, Éléonore et Anne-Marie sont avec les enfants pour préparer les paquets de Noël, avec les dons que vous avez faits à la destination des personnes qui vivent dans les pays de l'Est et qui sont dans le besoin. Voilà.
Alors, comme nous, ailleurs dans le monde, d'autres personnes ont choisi de suivre Jésus-Christ, même si cela leur coûte, voire au péril de leur vie. 340 millions de chrétiens ne peuvent pas vivre librement leur foi comme nous. Ils doivent se cacher pour prier. Ils sont souvent arrêtés, emprisonnés, torturés et massacrés parce qu'ils tiennent ferme dans la foi, tel qu'il nous est enseigné dans Matthieu 5, versets 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Est-ce qu'en Suisse et en Occident, nous ne serions pas en train de vivre une autre sorte de persécution? Aujourd'hui, Jean-François Negrini nous parlera d'autres formes de persécution qui se manifestent sous des formes plus sournoises.
On va prier avant. Cher Père Céleste, nous te remercions pour cette opportunité où nous nous unissons à tous nos frères et sœurs en Christ dans le monde, afin de penser et soutenir ceux de tes enfants qui sont persécutés. Amen. Et avant le message de Jean-François, nous aurons Paul Robert qui va nous présenter la carte de l'index de persécution dans le monde. Il sera suivi de louanges. Et ensuite, Sylvain et Noémie vont nous présenter la situation au Laos et en Inde.
Cette carte du monde est une carte du monde qui indique les par porte ouverte, vous savez, cette institution, cette ONG qui s'occupe justement de ces églises et ces chrétiens en difficulté dans le monde. Et c'est l'index des persécutions. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il me semblait que c'est pas... Voilà. Ah, c'est une belle carte, quelque part. Bon, on devine un peu le monde derrière. Une belle carte du monde. Ce monde que Dieu a créé. Cette terre où Dieu nous appelle à aller et à faire de toutes les nations des disciples. Cet appel a plus de 2000 ans. Il a retenti en Israël et de là, beaucoup sont partis annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui a ainsi dire, pour ainsi dire, traversé le monde entier. Regardons cette carte. Regardez-la bien. Il y a beaucoup de pays en rouge, en orange. On peut passer le cliché suivant. Là où des chrétiens, effectivement, souffrent. Et comme il a été dit déjà, sont épiés, trahis, poursuivi, arrêté, emprisonné, voire même tué à cause de leur foi en Jésus-Christ, leur Seigneur et leur Sauveur. Que ce soit pour des raisons politiques, dans certains pays, ou des raisons religieuses. Ces chrétiens sont nos frères et sœurs dans la foi. Comme le rappelait il y a 15 jours Philippe dans son message sur l'unité, nous sommes un avec eux, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes, coptes, évangéliques, etc., etc. Nous souffrons avec eux et pensons à eux particulièrement en ce dimanche de l'Église persécutée. Nous désirons nous souvenir d'eux, les soutenir au travers de ceux qui travaillent pour eux, les nombreuses ONG, les aider matériellement et surtout prier, les porter devant notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu notre Père, mon Dieu, comment en sommes-nous arrivés là, au cours des siècles, avec cette carte et tous ces pays où nos frères et sœurs souffrent, tous ces pays en rouge et en orange. Qu'a fait ou n'a pas fait ton Église, ton corps, pour qu'autant de chrétiens soient aujourd'hui encore persécutés? Père, pardonne-nous. Pardonne-nous nos dérives, nos divisions, notre vie où tu n'es plus le centre, nos lâchetés, notre individualisme, notre faible foi, nos désobéissances, notre manque d'amour, avec un grand A. Père, en ce jour particulier, je m'humilie, nous nous humilions devant toi. Redonne à ton Église ton amour incommensurable. Renouvelle ton Église par le Saint-Esprit. Réveille ton Église afin qu'elle soit nouveau porteuse de ce message de grâce incroyable à travers le monde et qu'elle transforme notre monde. Père, que la compassion pour nos frères et sœurs qui souffrent nous habite. Père, en ce jour, que ceux qui sont persécutés pour leur foi soient visités par toi, encouragés, vivifiés, aimés. Que la paix que toi seul peux donner les inonde et malgré les difficultés les rende heureux. Que ta joie les inonde. Devant cette carte, Seigneur, devant notre impuissance quelque part, nous te disons Maranatha. Viens, Seigneur Jésus, établir ton royaume de paix, de justice et d'amour. Mais en disant cela, que je me mette en marche, que nous nous mettions en marche à ton service et que dans tous ces pays, autant ceux qui persécutent que ceux qui laissent de côté toutes les valeurs chrétiennes, comme chez nous en Occident, beaucoup puissent encore discerner l'amour offert en Jésus-Christ. Ce matin, nous nous arrêterons sur plusieurs pays par divers témoignages. Un, le témoignage de Sylvain au Laos, des nouvelles toutes fraîches. Deux, le témoignage de Noémie par rapport au pays de l'Inde. Et trois, grâce à la présence de notre frère Jean-François Negrini, que nous remercions, et nous saluons aussi Anne, qui est avec nous ce matin, qui nous va nous parler du Bangladesh, où ils ont œuvré tous les deux, et du Niger, où là-bas aussi, ce n'est pas toujours facile. Vous les avez en photo sur cette carte. Ensuite, nous aurons un temps de prière pour nos frères et sœurs persécutés. Et puis un soutien financier vous sera proposé à la fin de ce culte. Et maintenant, donc, à cause, chantons. Car ceux qui sont dans ces pays, souvent, ne peuvent pas chanter ouvertement, librement. Et nous voulons leur dédier ce culte. Et chanter librement à la louange de notre Seigneur, qui seul en est digne. Amen.
Sur toi et ces belles paroles, tous les jours tu es fidèle, nouvelle grâce des cieux, comme un arbre dans ton temple, entouré par les murs de ton amour.
Thank you.
chant suivant que vous connaissez bien dit « Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. »
Le soleil me lave. Voilà, bonjour. Alors, j'ai eu quelques nouvelles qui me viennent par le pasteur laotien Van, que certains d'entre vous connaissent, qui habite à Lyon et qui est en contact régulier avec ses compatriotes. Alors, voilà, si tu peux présenter la première photo. Voilà, c'est une famille de la province de Savannakhet qui a fait profession de foi le 7 septembre dernier. Et voilà, on les a contraintes. Deux semaines après, on les contraignait à quitter le village. Ils se sont installés dans leur rizière. Là-bas, les gens, ils ont en général une petite maisonnette où ils peuvent rester pendant qu'ils font le travail des champs. Et ils ont contact interdit avec les autres villageois, y compris les gens de leur propre famille. Voilà quelque chose qui vient d'arriver là, actuellement. Une autre famille... Là, c'est dans la même région, à 60 km de Savannakhet. Une jeune famille de trois personnes, Taoket, 21 ans, son épouse Nankram, 20 ans, avec un enfant, qui ont aussi été chassés de leur village par les autorités locales et leur parenté le 10 septembre dernier, parce qu'ils s'étaient convertis au christianisme. Et là, on leur a pris leurs biens, leurs maisons, leurs champs, et par leur propre famille d'ailleurs, et ils se trouvent sans rien. Ils manquent du nécessaire, et ils demandaient à mon ami le pasteur Van, pour construire leur nouvelle maison, ils ont besoin de 50 tôles ondulées qui coûtent 35 000 kip pièces. Alors les kip, c'est des petites monnaies, mais ça fait quand même près de 200 francs. Voilà, c'est leur demande. Bon, vous ne répariez pas une grande partie de votre toit avec ce montant en Suisse, mais voilà. Alors, juste pour donner une situation générale, au Laos, il y a une constitution qui assure la liberté de croire ou de ne pas croire. Ça, c'est typique des pays communistes. Et la plupart des chrétiens vivent leur foi tout à fait ouvertement. Le culte, c'est pas du tout fermé. Et ils ont parfois des libertés qu'on n'aurait pas ici. Comme une fois à Vientiane, de faire une immense manifestation, un genre concert de louanges dans un grand stade, qu'on n'oserait pas faire ici. Puis en même temps, vous avez des persécutions caractérisées assez régulièrement dans des villages qui ont des causes plutôt religieuses. Parce que là, ce que je vous raconte, c'est en fait, dans les villages, les gens sont animistes. Ils ont leur propre tradition, ils doivent faire des cérémonies pour apaiser les esprits, et ils ont peur que si des gens ne participent plus à ces cérémonies, ça retombe, le malheur retombe sur le village. C'est un peu ça à la base. Évidemment, ça se mélange aussi au système politique, parce que c'est toujours le chef du village qui a beaucoup d'autorité là-dessus. Mais il arrive que les autorités au niveau provincial essayent d'aider les chrétiens dans cette situation. Mais la plupart du temps, ils laissent faire ce qui se passe. Par ailleurs, vous avez aussi dans ce pays des discriminations qui ne portent pas leur nom. Mais tout simplement parce que tout est contrôlé par un parti unique. C'est comme en Chine ou au Vietnam. Et si vous n'êtes pas membre du parti, impossible d'avoir un poste à responsabilité dans la fonction publique. Et puis un chrétien, en tout cas s'il a des responsabilités dans l'Église, on ne va jamais l'accepter dans le parti. Donc, ils sont discriminés de cette même manière. Mais au milieu de cette situation, on voit régulièrement beaucoup de gens qui se convertissent à l'Évangile, malgré les risques qu'ils prennent. Voilà, donc on voit que le Seigneur est à l'œuvre là aussi.
Bonjour, alors je m'appelle Noémie. Peut-être que vous m'avez moins vue au sein du groupe Mission, mais j'en fais partie depuis maintenant 2 ans. Il y a quelques années, j'ai fait une mission humanitaire avec la CIM, donc la Société internationale missionnaire en Inde. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ce pays qui me tient beaucoup à cœur. C'est vrai qu'en Inde, la persécution est beaucoup plus violente qu'au Laos. Et durant la pandémie du Covid, elle s'est accélérée. C'est vrai que les hindous radicaux ont pour objectif d'éliminer le christianisme en Inde d'ici la fin de cette année. Donc c'est vrai qu'ils avaient des objectifs très très courts. Et donc ils mettent beaucoup d'acharnement là-dedans. Et ils n'hésitent pas à recourir à une extrême violence pour ça. Les hindous qui se sont convertis au christianisme sont particulièrement visés. Ils subissent des très fortes pressions pour revenir à l'hindouisme. Et puis, les plus fortes persécutions ont lieu dans des zones rurales où les chrétiens sont isolés et connaissent pas forcément d'autres chrétiens pour les encourager et prier avec eux. Et puis, pour préparer cette intervention, j'ai repris contact avec un de mes amis missionnaires indiens, pasteur indien, qui est aussi missionnaire dans toute l'Inde. Et il a une église à Nagpur, c'est une petite ville dans le centre de l'Inde. Et il m'a confirmé que les hostilités ont doublé envers les chrétiens ces dernières années. Et le soutien du gouvernement très nationaliste et religieusement radical qui dirige la nation est pas du tout en faveur des chrétiens. Les églises et les croyances sont continuellement attaquées physiquement. Les activités missionnaires sont interdites dans plusieurs régions. Mon ami a dû fuir plusieurs fois du pays et partir, par exemple, aux États-Unis pour mettre à l'abri sa famille. Il m'a dit que beaucoup de personnes ont perdu leurs proches et leur emploi pendant le Covid. Et les pasteurs et missionnaires indiens souffrent beaucoup du manque de services de soins et de santé. Pourtant, mon ami m'a donné quand même des nouvelles plus réjouissantes. Il m'a dit qu'il partage toujours l'espérance en Christ. Son église à Nagpur a repris le service en présentiel il y a une semaine. Les personnes de leur communauté sont impatientes de venir assister au culte et ils font encore de leur mieux pour continuer leur service auprès des personnes qui ont besoin de contact et de prière. Donc vraiment, les chrétiens en Inde ont besoin plus que jamais de leur famille, du reste du monde, dont nous faisons partie. Voilà. Merci.
Voilà, je vais prier pour Jean-François. Seigneur, nous te remercions pour Jean-François Negrini et te le remettons pour ce temps où nous savons que tu l'inspires afin que son message puisse toucher chacun d'entre nous. Nous le bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Eh bien, bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir de revenir à Mérin. Merci à l'invitation aussi du groupe Mission pour ce temps de partage, de réflexion. C'est vrai qu'on est, moi aussi, je suis toujours touché quand j'entends ces histoires. En Inde aussi, on y a passé quelques mois avant d'être engagé au Bangladesh. Je me souviens toujours d'un journaliste qui disait, mais en Inde, les gens qui ont apporté les problèmes, c'est les missionnaires. Je lui dis, mais comment ils ont apporté les problèmes? Eh bien oui, l'annonce de l'évangile à ceux qui étaient au plus bas de la classe sociale et leur dire qu'ils étaient fils et filles de Dieu et qu'ils n'étaient pas quelque part en train de payer pour une vie qu'ils avaient mal vécue auparavant, ça a semé une révolution sociale dans tout le système économique social qui remettait en cause tout dans le système. Alors c'était très intéressant de voir à quel point aussi l'évangile transforme les vies, mais a un impact, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, beaucoup plus profond sur nos vies, sur la société dans laquelle on est engagé. Et je voulais commencer un petit peu ce partage et cette réflexion avec une discussion que j'ai eue quand on était au Bangladesh avec le directeur de l'hôpital qui était chrétien, engagé dans une église locale. Et on parlait un petit peu de ces musulmans qui se convertissaient mais qu'on ne voyait pas beaucoup dans les églises locales. Et je lui disais, mais comment ça se fait? Puis il me disait, mais tu ne te rends pas compte, ces nouveaux chrétiens d'arrière-plan musulmans, c'est des fous. C'est des radicaux quand ils arrivent dans l'église. Il n'a pas dit comme ça, mais il dit, ils mettent un petit peu du désordre et puis on n'est pas prêt à recevoir ce degré-là de radicalité dans les églises. C'est pour ça qu'ils s'y sentent pas tout à fait à l'aise. Alors, au Bangladesh, ce qui se développait, c'est en fait c'est des réseaux. Et les musulmans convertis se retrouvent plutôt en petits groupes, en études bibliques, mais rejoignent rarement les églises locales. Autre effet aussi indirect, ils me disaient, mais tu ne te rends pas compte que si la communauté locale apprend qu'on accueille des musulmans convertis, pour nous, on risque de se faire tout simplement brûler l'église parce qu'on les accueille. Donc, on est tous très prudents et on se cache. Et c'était un petit peu habituel. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a des musulmans qui se convertissent d'une façon, je dirais, plus paisible, plus sereine, sans qu'il y ait autant de heurts et de réactions? Puis il m'a dit avec un petit sourire, oui, il y en a. Puis après, il a rajouté, mais c'est suspect. Alors, vous avez déjà entendu l'essentiel, ce que vous racontiez par rapport à l'exclusion des villages, et c'était aussi commun au Bangladesh. Alors, les gens n'étaient pas exclus de leur village, mais ce qu'on leur excluait, c'est l'accès au puits d'eau du village. Et ils devaient marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau ailleurs. Donc, ça les mettait dans des situations aussi extrêmement difficiles, et ça, c'était tout à fait commun. En islam, si une femme, par exemple, choisit de se convertir et de suivre le Christ, elle est répudiée. Et alors, beaucoup de gens vous diront non, mais c'est pas partout pareil, c'est pas toujours, c'est vrai. Mais au Bangladesh et dans pas mal d'autres pays musulmans, je dirais assez fondamentaux, c'est ce qui se passe. Et en plus, les enfants lui sont retirés, tous ses enfants lui sont retirés et sont attribués à la famille du mari. Ça, c'est courant, c'est standard, c'est habituel. Alors, pour une femme, choisir de suivre le Christ dans une famille avec des enfants, ça a des conséquences potentiellement qui sont très lourdes. Et je ne vous parle pas de choses extraordinaires, je vous parle de choses qui sont communes à ses frères et sœurs. Je voulais aussi vous parler de ce témoignage pour un petit peu faire le lien aussi avec peut-être des persécutions qui paraissent pas aussi violentes ou dures que celles dont on entend parler, dont on a témoigné tout à l'heure. Un jour, en consultation, je me suis retrouvé avec un papa qui m'amenait sa petite fille, qui devait avoir 11, 12 ans, qui m'a raconté toute l'histoire de l'évolution de son infirmité. Puis en fait, elle avait des paralysies qui apparaissaient progressivement aux membres inférieurs, aux mains. Et devant l'histoire qu'il me racontait, c'était assez évident qu'elle présentait une maladie neurologique évolutive. Vous avez peut-être entendu parler de sclérose en plaques ou de sclérose latérale. C'est des maladies. Alors, ce n'était pas ce type de maladie, mais c'est une de ces maladies évolutives pour lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Et après avoir entendu son histoire, pris conscience aussi, je crois que sa femme était décédée de cette maladie, qu'il avait deux autres sœurs plus petites qui commençaient à présenter aussi des signes comme ça, je lui ai dit, écoutez, là, chirurgicalement, on peut vraiment, et même médicalement, on ne peut pas vous proposer grand-chose d'autre, mais ce que je faisais souvent, c'était de proposer qu'on prenne un temps de prière. Et il était tout content. Et puis il m'a dit, ah mais moi aussi je suis chrétien. Je lui ai dit, ah oui, comment ça? Alors, et il m'a commencé à me donner son témoignage, en fait, que bien qu'étant de tradition musulmane, son papa avait suivi ce qu'ils appelaient, et ce qu'ils appellent encore, le chemin juste, ou le juste chemin, à travers un petit enregistreur, un petit appareil MP3, sur lequel étaient enregistrés les évangiles audio dans sa langue. Et puis, il était tout désolé parce qu'il l'avait abîmé, il ne fonctionnait plus, il n'en avait plus, mais qu'il avait appris à suivre et à écouter et à alimenter sa foi à cela. Et pour lui, c'était le fondement de sa foi. Puis quand je lui ai demandé s'il participait à une vie d'église ou localement, il est devenu un petit peu tout gêné, puis embarrassé. Puis il m'a dit, vous savez, il n'y a pas d'église dans mon village. Et puis, après, il me l'a présenté un peu sous forme d'une excuse pour me dire, mais vous comprenez, docteur, moi, j'ai, avec mes trois enfants, sans ma femme, j'ai besoin du soutien de ma communauté, j'ai besoin du soutien de l'aide des gens de mon village. Leur dire que je suis chrétien ou que je suis le Christ, c'est me couper à tout ça et je ne sais pas comment je survivrai. Alors, qu'est-ce que je pouvais lui dire, moi? Moi qui ne craignais pas du tout, mais qui donnais bien le ton et le climat général dans lequel vivent les gens dans ces pays. Je crois que ce soit en Inde, que ce soit au Laos, que ce soit au Bangladesh, ces pressions-là, elles sont très réelles. et on a prié, et puis on lui a procuré une nouvelle Bible audio, parce qu'il y a une mission, il y a des missions qui s'engagent à ça, il était tout content. Voilà une forme aussi habituelle, mais qui met bien en reflet la puissance et l'importance qu'a le réseau dans ces pays. Sans réseau, sans l'appui des gens qui sont autour de vous, quelque part, c'est vite des problèmes de vie et de mort qui se posent, des problèmes de survie. Et pour ceux qui choisissent de suivre le Christ, de suivre Jésus, le prix, c'est souvent l'exclusion, c'est souvent la marginalisation. C'est parfois ça devient violent, mais ce n'est pas forcément cette violence-là qui va rendre le suivi et l'évolution difficile au long cours. C'est cette marginalisation sociale, elle est très très difficile à vivre pour ses frères et sœurs. J'avais encore un témoignage aussi à vous partager, avec aussi un témoignage positif, mais qui montre bien à quel point aussi l'Évangile vécu, mais en pratique, il a une influence. Il a une influence sociale dans la façon dont les gens le mettent en pratique et le vivent. Et je me souviens qu'à une fête de Thanksgiving avec d'autres frères et sœurs missionnaires au Niger, j'étais autour d'une table et je partageais avec un vieux missionnaire qui avait dû revenir parce que dans la région dans laquelle il avait été impliqué pendant des années et des années, il y avait trop de menaces. Et puis je lui posais alors candidement, peut-être un peu bêtement, la question de savoir quel avait été l'impact aussi de leur travail, de leur œuvre. Et lui, il était assez désillusionné. Il disait, après toutes ces années, c'est pas passé grand-chose. C'est difficile. C'est difficile quand on est vraiment engagé pour ça, et puis de faire ce constat-là après autant d'années passées. Puis il dit, mais je lui pose la question, mais bon, rien. Puis il dit, oui, il y a quand même deux jeunes qui sont convertis, qu'on a choisi d'envoyer aussi pour faire une école biblique dans un des autres pays d'Afrique de l'Ouest, et puis qui ont choisi de revenir dans leur village en sachant très bien que quelque part, pour eux, l'avenir, il était complètement bouché parce que tous les gens de la communauté savaient qu'ils étaient devenus chrétiens. Donc, dans aucune des familles ne serait d'accord de leur donner leur fille à marier, et ils finiraient leur existence en petits moines locaux. Et ils ont malgré tout fait ce choix, ils se sont engagés et ils sont revenus. Et en fait, ce qui s'est passé, ils le savaient. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'après un certain temps, que les gens du village qui les ont vus à l'œuvre au milieu d'eux, les pères sont allés voir le père ou les pères de ces jeunes en leur disant, mais nous, ça ne nous dérangerait pas, en fait, que notre fille marie un de vos fils. Et les pères leur disaient, mais vous savez ce que croient nos fils, si votre fille devait devenir leur femme, il faudrait qu'elle soit chrétienne. Puis les pères leur disaient, écoutez, ça, pour nous, ça irait, il n'y a pas de problème, parce qu'on voit le style de vie qu'ils mènent, on voit que la vie juste qu'ils mènent, et nous, on sait que nos filles seraient bien mieux avec eux qu'avec certains des autres jeunes qu'on a autour. Mais nous, on ne peut pas faire ce choix. Parce que les pères, en fait, les coincaient un peu en leur disant, mais alors, si vous voyez que c'est le chemin qui est juste, c'est mon chemin, pourquoi est-ce que vous vous y engagez pas? Il dit, nous, on est trop vieux. Si on fait ça, on se grille complètement au niveau de la communauté locale, du village, mais que nos filles choisissent d'entrer sur ce chemin et de devenir chrétiennes avec vos fils, ça ne nous pose pas de problème. Donc, il y a aussi des choses comme ça qui se voient, qui se passent, et ailleurs que où on était. Alors, je voulais prendre un petit peu ces quelques exemples pour aussi revenir un petit peu à ce que nous, on a vécu au Niger. Vous avez aussi contribué par votre aide à la suite de ces événements. Les églises qui, en un week-end, plus d'une cinquantaine d'églises brûlées à travers le pays, une sorte de folie meurtrière dans un pays relativement stable, dans un pays qui ne faisait pas partie, en fait, des pays où il y a une persécution aussi dure qu'elle existe dans les pays avoisinants, et où tout le monde a été un petit peu surpris. Et notre église, l'église à laquelle on allait, a été brûlée. Avec vos dons et votre aide, elle a pu être construite mieux qu'avant, la maison à côté aussi. Mais ce qui reste, et ce que ça dénote, ce n'est pas tellement les destructions qui ont eu lieu, c'est quelque part tout ce qui a été altéré dans les relations, dans la proximité des relations avec les voisins, avec les gens qui étaient proches, Beaucoup de gens nous ont donné ce témoignage que ceux qui sont allés en fait dénoncer ou dire où étaient les maisons des chrétiens, où étaient les églises, c'était des voisins, c'était des gens qui saluaient tous les jours, des gens avec lesquels il y avait des relations apparemment d'amitié. Et tout ça, ça a été quelque part profondément remis en question, et ça dénote bien du climat, je dirais, d'insécurité habituel dans lequel évoluent les frères et sœurs qui sont dans ces pays. Alors nous, on connaît peut-être mieux les pays à forte dominance musulmane, et c'est habituel. Les chrétiens, ils savent que l'imprévisibilité fait partie de la vie de tous les jours. Alors, en même temps, il s'est passé des belles choses. En même temps, on a eu le témoignage de voisins qui sont sortis de leur maison et qui sont allés carrément protéger et s'insurger contre une équipe qui venait pour incendier une église et puis une clinique chrétienne. Et ils ont dit, vous ne touchez pas à cette clinique, à cette église, parce que ces gens-là, ils prennent soin de nous, ils prennent soin des nôtres, vous les laissez. Et il y a quand même eu aussi ce genre d'expériences qui ont été encourageantes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus chrétiens, ça ne veut pas dire qu'ils étaient à l'église, mais ça veut dire qu'il y a eu aussi des choses encourageantes pour les chrétiens, où ils ont vu que quelque part, ce qui avait été semé avait des retours dans ce genre de circonstances. Et vous comprenez bien que dans ces conséquences, dans ces situations, la problématique d'aimer ses ennemis, la problématique de pardonner, elle prend un sens tout particulier parce qu'elle se vit au jour le jour. Au jour le jour, le voisin qui vous sourit, c'est peut-être celui qui vous a trahi, c'est celui qui est prêt à le faire. C'est une confiance très, très relative qu'on peut accorder aux uns et aux autres. C'est un climat assez, assez spécial. Et je réfléchissais en me disant, tiens, souvent les histoires qu'on entend, les partages qu'on a, sont assez éloignés un petit peu de notre expérience habituelle ici, dans nos pays en Suisse, nos Suisses paisibles, bien organisées, sereines, et je me suis dit, bon, quels sont les liens, qu'est-ce qui peut nous rapprocher? Et j'ai réfléchi un petit peu à ce partage aussi dans le sens de dire, quelles sont peut-être les persécutions, les pressions que vivent ou que vont vivre les chrétiens dans notre pays, dans notre beau pays qu'est la Suisse, et je vous assure qu'on l'apprécie chaque jour depuis qu'on est revenu. Et j'y réfléchissais en me disant, tiens, c'est des choses que je vous partage à l'écoute de discussions, de reportages, de choses entendues. En Suisse, comme certains le rigolent un peu, on est gentil. On n'est pas trop méchant, on sait que dire des choses trop dures, c'est pas très très bien, que d'être trop critique, c'est pas ça non plus, c'est pas bien non plus. Il y a une forme de mépris qui se manifeste plutôt par la dérision. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre l'interview qui a eu lieu à la télévision sur un dessinateur connu de bande dessinée qui est en train de produire un film par épisode sur la vie de Jésus. Et c'était très intéressant de voir toute la dérision qu'il y avait dans le manque de sérieux qui en était pris, et notre façon très suisse, en fait, d'afficher ou d'exprimer un manque de respect ou un mépris se fait beaucoup plus à travers l'humour ou la dérision, mais fondamentalement reflète les mêmes élans, les élans profonds. Et je me suis dit, est-ce qu'on est persécuté ou pas en Suisse? La plupart des gens diraient, non, il ne faut quand même pas pousser, vous n'êtes pas persécuté en Suisse. Alors, sous certains aspects, c'est vrai. Et moi, je voulais vous proposer, en tout cas, quelques réflexions, quelques sujets, des choses qui agacent, des choses qui irritent, que font, que disent les chrétiens, que sont les chrétiens. Et vous me direz si vous avez trouvé des attitudes toujours très ouverte et très accueillante par rapport à ça. Je trouve qu'à travers les chants qu'on a pris et de la louange qui est exprimée, elles expriment très très bien, quelque part, je crois qu'on est tous comme frères et sœurs, comme fils, comme filles de ce Père céleste que nous révérons. Alors, quand on estime, quand on affirme, quand on dit clairement que Jésus, c'est le seul chemin, que Jésus, c'est la source de vie, qu'il est le seul accès au Père. Alors, est-ce que vous allez le crier en sortant de cette église? Moi, je peux vous assurer que mon expérience et d'autres expériences d'autres frères et sœurs a été que d'exprimer ces choses-là suscite souvent des réactions rarement positives. Vous allez passer pour des radicaux, vous allez passer pour des gens intolérants, les plus polis vont être juste agacés ou irrités. Pour les musulmans, quand on atteste ou qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu, alors bien sûr, on peut en discuter de ce que vraiment ça signifie. Là aussi, le Christ, pour les musulmans, c'est une source de respect, mais le Christ tel que les chrétiens le révèrent, c'est une source profonde d'irritation et d'agacement, je peux vous assurer. Comme on le chantait dans les chants, Jésus, notre rocher, notre assurance, la proclamation et la reconnaissance de notre dépendance, de notre faiblesse, de notre recours à lui. Ça nous a valu le privilège d'être taxés, nous les chrétiens, de vendre de l'opium au peuple pour ramollir, pour apaiser à bon compte les chrétiens et ceux qui croient en Christ. Cette affirmation dans la vie de tous les jours, cette affirmation de conscience, de confiance en ce qu'est le Christ, en ce qu'il a promis d'être pour ceux qui lui font confiance, ça, je peux vous assurer que c'est aussi un élément qui parfois vient un peu chatouiller les sensibilités quand vous l'exprimez à l'extérieur dans notre culture. Alors, quelque chose encore peut-être de plus évident, mais beaucoup plus provocant, annoncer une allégeance, une révérence fondamentale au Dieu Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel, de la terre, qui tient nos vies dans sa main. Et dire des choses comme ça aujourd'hui, c'est insupportable. C'est insupportable. À plus d'un point, quelque part, parce que ça, implicitement, ça impose la reconnaissance de quelqu'un qui est tout-puissant, qui est au-dessus, qui a droit de regard, qui a droit de jugement, l'homme moderne actuel. Mais ça lui est insupportable, l'idée que quelqu'un puisse juger de ses faits, de ses choix de vie, de ses choix moraux, de son existence. On est dans une culture de ce que je qualifie la nouvelle normalité, où tout est normal, ou plutôt tout ce qui était normal devient bizarre et devient anormal. Et dans ce contexte, annoncer un Dieu créateur, tout-puissant, qui a droit de jugement, qui va juger les vivants et les morts, ça, je vous assure que ça provoque quelques résistances et quelques réactions. Pas forcément lorsqu'on le dit, mais quand on est perçu comme quelqu'un qui le vit et qui s'y réfère, ça génère des réactions. Que parler de l'intolérance chrétienne? Elle est un peu implicite dans tout ce que je vous ai parlé, mais c'est le thème qui vient régulièrement sur la table. On est des intolérants, ou peut-être que vous ne l'êtes pas, mais moi j'assume, maintenant j'ai passé un certain âge, j'assume certains préjugés, j'assume une certaine intolérance, peut-être. Est-ce que l'intolérance, elle n'est pas juste fidélité à ce qu'on a dans nos textes, à ce qu'on a dans la parole, mais cette forme d'intolérance, cette forme de radicalité, elle est extrêmement dérangeante dans notre siècle actuel. Et même si les oppositions ne sont pas franches, fondamentalement, elles sont beaucoup plus profondes parce qu'elles remettent tout en question. Comme les chrétiens et les missionnaires en Inde, dans la culture, mais Jésus déjà à son époque, quelque part, il remettait tout en question par le type de vie, d'éthique qu'il proposait, qu'il suggérait, parce qu'il n'était pas si directif que ça. Alors je me suis dit, tout ça c'est joli, c'est des témoignages. Est-ce que, au niveau biblique, on a des exemples? Est-ce qu'on a des références? Est-ce que, j'en y réfléchissant un peu, je me suis dit que, peut-être que vous y pensez aussi, il y a quand même des gens dans notre histoire, dans notre Bible, qui ont fait l'expérience de vivre dans une culture majoritaire opprimante, très très différente, qui n'ont pas choisi d'y vivre, qui s'y seront retrouvés parce qu'ils ont été extraits de leur propre culture et qui ont certainement aussi souffert dans cette culture très différente. Et je pense qu'on peut tirer des leçons un petit peu de ce qu'ils ont vécu. Alors, évidemment, j'ai pensé à Daniel, j'ai pensé à ses amis. C'est pas que pour les jeunes, parce que Daniel, vous verrez que dans ses dernières prises de position, il avait déjà un âge probablement assez honorable. Alors, un des éléments aussi qu'il est important peut-être de rappeler ensemble, c'est que la persécution, c'était un mode de vie habituel dans le passé de la plupart des générations des nouveaux chrétiens. Pensez à notre historique aussi comme chrétien d'origine protestante. Avant les protestants, il y a eu les Vaudois du Piémont. Ça a été vraiment l'habitude que quelque part, au nom du Christ, au nom d'une annonce de la grâce claire, les gens ont été persécutés, ont toujours souffert. Et alors j'ai choisi de me pencher un petit peu sur le parcours de Daniel, vu le temps imparti. J'espère que je le respecte d'ailleurs. comme je n'ai pas de traducteur, je ne pourrais pas incriminer la rallonge par la traduction. Mais je prends juste quelques éléments un petit peu du parcours de Daniel et de ses amis pour en relever certains éléments qui sont, je trouve, pertinents par rapport à notre réflexion sur ce que signifie la persécution. Alors Daniel, vous le connaissez, la plupart d'entre vous, certainement vous avez lu son histoire et vous le connaissez bien. Déporté de force, c'était un adolescent au moment où il était déporté. Certains théologiens pensent qu'il était eunuque parce qu'on ne retrouve rien de concernant Daniel dans les généalogies. Dans le livre de Daniel, il n'est pas fait mention de femmes, d'enfants, de familles. Et puis, en plus, dans les habitudes guerrières de l'époque, il était assez habituel que les pays conquis récupèrent des enfants des élites des pays qu'ils avaient conquis et en face des eunuques. Alors, on a changé son nom dans une culture où la pratique et la reconnaissance et la louange aux idoles étaient au cœur de la pratique religieuse. D'ailleurs, Daniel et ses amis essaient de s'en démarquer tout au début de leur parcours en demandant de ne pas manger, de ne pas manger des aliments et des mets qui avaient été présentés à ces idoles auparavant. Et j'ai pensé, en pensant à Daniel, en pensant à ses amis, je dirais, les exemples modernes qu'on pourrait imaginer, ce sont ces jeunes filles que Boko Haram a enlevées, qui n'ont pas choisi, qui sont adolescentes, qui ont été mariées de force. Après 2 ou 3 ans, celles qui ont été récupérées, il s'en est passé des choses. J'ai lu un reportage justement sur ces jeunes filles qui avaient été récupérées, qui étaient revenues dans leur famille et qui retournaient dans une école. En fait, c'était un reportage avec des photos dans un journal qui n'est pas chrétien. Mais ce qui est assez incompréhensible, étonnant, c'est que sur toutes ces photos, ce qui ressort de ces filles, c'est la joie. Elles sont souriantes et je dirais, c'est pas nos journalistes chrétiens qui est en train de faire la chasse aux photos, des belles photos. Elles sont souriantes, elles sont entre elles, elles sont sereines et c'est interpellant malgré tout ce qu'elles ont vécu. Daniel, il a vécu sous 3 empereurs. Il a commencé avec Nebuchadnezzar qui l'a ramené chez lui. Il a connu de façon assez courte une rencontre en tout cas assez pointue avec son fils. Puis après, il a passé à Darius. Donc il a quand même un certain parcours. Il est toujours là, dans cette culture dominante, oppressante pour lui. Et dans son rôle, c'est intéressant de voir qu'il était un peu comme un révélateur. Alors, je vais vous prendre, on va reprendre pour que, parce que je pense que ça vaut quand même la peine de lire certains éléments clés. L'élément, le moment où ils sont pris et les amis de Daniel sont mis dans la fournaise, avant d'être confrontés à cette épreuve, le roi est assez agacé qu'il ne refuse, justement, il refuse l'allégeance, la reconnaissance à cette statue qui a été érigée, il refuse de l'adorer. Les chrétiens du temps des Romains, avant Constantin, ce qui leur était fondamentalement reproché, c'était le refus de la révérence et de l'adoration à l'empereur romain. Là, au fond, c'est la même chose qui est en jeu. Et les amis de Daniel, ils y vont, parce que nous, on connaît l'histoire, on sait ce qui se passe après. Mais quand ils sont présentés à l'empereur, ils sont prêts à y aller. Ils disent, ils ont même la prudence de dire, notre Dieu peut nous délivrer, et si vous lisez ce passage, mais après il rajoute, prudent, mais même s'il ne le fait pas, nous n'adorerons pas ta statue. Ils sont encore même un tout petit peu plus insolents, parce que quand l'empereur les met au défi, le début de leur réponse, c'est de dire, sur le fait de mettre en balance, le fait de ne pas respecter, de leur dire, est-ce que vous croyez que votre Dieu est suffisamment puissant ? Ils ont le culot de lui répondre, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. C'était pas tout à fait ni effacé, ni humble, ni réservé. Il n'est pas nécessaire de te répondre. Est-ce qu'ils étaient impertinents ? Est-ce qu'ils étaient arrogants ? Bon, certains pourraient vous le dire. D'accord, je dirais que oui. Je plaide coupable pour eux, oui. Peut-être qu'ils étaient un peu arrogants et tout ça, mais ils avaient un feu en face d'eux. Donc, ils étaient assez cohérents aussi avec ce qu'ils croyaient. Alors, le passage suivant que je trouve très intéressant, c'est le moment où Daniel... J'ai combien de temps ? Dis-moi. Très bien. Le moment où on va chercher Daniel, parce qu'il y a cette main qui est écrite sur un mur, c'est la maman du roi dont il est question qui le fait aller chercher en disant que Daniel est quelqu'un de remarquable. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce récit, c'est qu'en fait, on pourrait s'imaginer qu'après toutes ces années vécues en étant écrasé, en étant dominé, en étant Daniel, quelque part, on va économiser le temps, ce sera à vous d'aller relire ce texte, il met tous les points sur les i. Il répète toute l'histoire de son père et il dit au fils, t'as vu ton père, tout ce qu'il a vécu, il a vécu ça, il a vécu ça, il a vécu ça. Toi, t'as rien appris. Toi, t'as pris des éléments. Et vraiment, Daniel, on a l'impression, quand on lit, on lui demande de venir interpréter un rêve et que lui, il enfonce bien le clou, puis il dit, mais je vais quand même te donner l'interprétation de ton rêve. Tes cadeaux, tu peux les garder. Son attitude dénote d'une indépendance, d'une liberté et profondément, quelque part, d'une révérence à l'égard du Dieu qu'il a toujours obéi et suivi. Et c'est d'ailleurs ce que l'empereur suivant va révéler quand il lui parle. Quand il l'adresse, après que Daniel a été mis dans la fosse avec les lions, quand il va, avant qu'il doive y aller, quelque part, qu'il soit mis dans la fosse avec les lions, Darius, il lui dit, « Daniel, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance. » Il lui dit, « Qu'il t'a accordé des tas dans des tas de choses, non. » que tu sers avec tant de persévérance. Quand il va le chercher, pour savoir s'il est toujours vivant, il lui redit la même chose. Ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, est-ce qu'il t'a délivré ? Alors, je dirais, j'aurais des questions à vous poser, j'aurais des tas de choses à vous proposer, d'autres et tout, mais je pense qu'en définitive, la vraie question qui nous est posée, qui nous interpelle aussi dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'au bout de nos parcours, de nos engagements, de nos chemins avec Dieu, on pourra dire la même chose de nous ? Et je pense que c'est une question que je m'envoie à moi aussi, hein. Je ne vous l'envoie pas du haut de la chair, me dire, Est-ce que les gens pourront dire autour de moi, Jean-François, le Dieu que tu sers avec persévérance, est-ce que nous aurons été fidèles? Je crois que l'appel de Jésus, il est radical. Et ça, c'est un peu ma conclusion. Il n'est pas nuancé. Pas le temps de vous lire les versets non plus. Merci Paul Robert. Mais relisez ce que dit Luc à propos de ceux qui souhaitent être les disciples de Jésus. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de nuances. Et je pense qu'on est vraiment appelé, on doit être, je dirais, encouragé, stimulé dans notre foi, dans notre parcours avec Dieu, à nous laisser interpeller par les frères et sœurs qui souffrent aussi, mais en réalisant que la persécution et l'oppression, elles sont là et elles vont devenir probablement de plus en plus difficiles aussi dans notre vie ici en Europe et en Suisse. Voilà, merci pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse.
Voilà, on nous signale que les enfants ont terminé et qu'il faudrait qu'on accélère. Et je pense que c'est pas le moment. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on prenne le temps de prier pour nos frères et sœurs persécutés. C'est le moment particulier que nous pouvons vivre aujourd'hui dans ce culte. Donc les personnes parmi nous qui vraiment se sentent obligées de sortir à cause des enfants et tout, qu'ils le fassent vraiment librement. Voilà, c'est ma pensée, ma manière, notre manière de voir les choses pour ce dimanche particulier. Merci.
Alors, comme on a détaché les chaises, ça permet justement qu'on essaye de se mettre ensemble pour pouvoir être en groupe de 4-5 personnes, si c'est possible, et pour ces prières. Et on a des propositions, hein. Quelques propositions, à savoir le Bangladesh, prier pour le Niger, l'Inde, pour l'offre de portes ouvertes, les chrétiens de Bunia au Congo et le Nigeria. Après, voilà, ce que le Seigneur vous inspire. Et nous allons nous mettre en rond, puis après on fait une petite prière de départ, en petit groupe.
Alors vous pouvez tourner les chaises, faire des petits groupes de 4, 5, 6, et puis on peut prier un moment pour nos frères et sœurs.
Alors, on prie. Oui, Seigneur. Père Céleste, nous te remettons chaque groupe de prière et nous nous attendons à ton inspiration durant ce temps que nous mettons à part pour nos frères et sœurs de l'Église persécutée de par le monde. Amen.
ils adoreront Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. Amen. Vous pouvez terminer votre groupe de prière.
On va mettre des petites gommes sous les chaises pour que ça fasse moins de bruit. Bonjour à tout le monde. Pour les annonces pour cette semaine, donc comme vous l'avez peut-être vu, la semaine dernière, le mémo est disponible. Pour ceux qui l'ont reçu en papier la semaine passée, où vous le retrouvez sur le site internet dans l'espace membre. Pour ce mémo, viennent compléter 2-3 informations, notamment... Nous prévoyons un colloque le vendredi 26 novembre à 20h15. Et puis, comme les mesures sanitaires nous le permettent, nous aimerions pouvoir organiser à nouveau un repas communautaire le 5 décembre. Deux, trois choses qui s'organisent, vous en saurez plus par la suite. Samedi prochain, 13 novembre, entre 9h et 11h, les musiciens, groupe Louange, vont se réunir sous l'engagement et puis la motivation que nous a apporté Thierry Battisti. Ceux qui n'auraient pas reçu le mail et qui aimeraient participer et puis s'intégrer dans un groupe Louange, vous êtes les bienvenus. Donc samedi 13 novembre entre 9h et 11h ici à l'église. Dimanche 14 novembre à 17h, il y a le théâtre de la Marelle au CEPOM sur un livre d'Éric Emmanuel Schmitt, L'Évangile selon Pilate. Et puis pour les paquets de Noël, donc vous avez entendu l'annonce au début, c'est les paquets que les enfants ont réalisés aujourd'hui, mais il y a encore les paquets pour les adultes, donc... Il y a eu cette semaine déjà une première confection et puis il est prévu jeudi 11 novembre de 14h à 16h30, comme vous le voyez affiché, une deuxième session pour la confection des paquets pour adultes. Vous êtes les bienvenus pour vous inscrire ou plutôt pour annoncer votre présence. C'est auprès d'Anne-Marie Wenger qui est en bas pour l'instant. Mais que vous pouvez demander ou venir vers moi si vous ne savez pas qui est Anne-Marie. Et puis, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut faire un retour pour... voilà, Claude. Et puis après, je...
Excusez-moi, ce n'était pas prévu. Mais vous avez apprécié, j'imagine, la musique de Elena. Alors, bienvenue aux Amis du Fil d'Argent le 17 décembre. L'après-midi 17 décembre, Elena et sa coéquipière et aussi Célina nous feront le plaisir d'animer cet après-midi pour nous en musique. Alors, puisqu'elle est là, c'est notre musicienne de ce jour.
Voilà, avec Daniel, avec Thierry Terra, Mélodie aussi. Donc on avait le grand plaisir de vous faire un retour par rapport à la journée d'hier avec les fabricants de joie. Donc ça a été une journée très intense et je dois dire qu'elle s'est très bien passée. On a eu plus de 1000 personnes pour cette comédie musicale de Georges Müller. le forum était plein dans la séance de l'après-midi, et puis on a eu les deux tiers, voire trois quarts pour le soir. Donc c'était vraiment une belle journée avec les fabricants de joie. Je tenais à remercier toutes celles et ceux de Mérin qui ont participé de l'exé évangélique, à savoir pour faire les cakes, pour la prière, pour les bénévoles aussi. On a eu plusieurs bénévoles qui nous ont bien secondés, et ça, c'était très chouette. Aussi pour Jeunesse en Mission avec Thierry Terra. Donc il y a eu plusieurs aussi jeunes de Jeunesse en Mission Genève qui sont venus nous aider. Et je crois que c'était vraiment très riche et très, très paisible. Même avec le personnel du forum, ils ont été très bienveillants. C'était vraiment que du bonheur. Je ne sais pas si tu veux compléter.
Oui, je voulais vraiment dire que les personnes sur place qui travaillent au forum étaient vraiment surpris. Ils voulaient faire qu'une seule représentation. Marjorie, donc celle qui a fait la comédie, elle avait vraiment dit, insisté pour en faire deux. Puis ils étaient, non, mais je ne pense pas qu'il y en aura autant de monde. Et ils sont tous vraiment revenus plusieurs fois vers nous, nous dire, mais vraiment, on ne comprend pas comment il y a autant de personnes, c'est vraiment trop chouette, quoi. Donc c'était vraiment un témoignage aussi pour les personnes du forum, d'avoir pu être là présent, et ils ont pu regarder, voir aussi la comédie qui parlait vraiment d'un témoignage de Dieu.
Et je crois aussi qu'on était très reconnaissants vis-à-vis du centre œcuménique, donc des catholiques protestants qui ont fait un repas et qui étaient présents aussi. Je crois que c'était très chouette aussi de pouvoir collaborer avec eux. Ce n'était pas que notre projet, mais c'était un projet mérinois, des églises mérinoises. Ça, c'était très riche. Et je crois que notre reconnaissance va aussi à notre Père qui a vraiment béni toute cette journée, toute cette préparation. Et je crois que c'était vraiment un sujet de reconnaissance. Alors, je vous propose que juste une petite prière. Petite. Et puis, juste pour dire merci à notre Père. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons être reconnaissants de ce qui s'est passé, de cette comédie qui est venue à Genève, des portes qui se sont ouvertes, des personnes, de la bienveillance qu'il y a eu tout au long de ces journées, de cette journée. Et Seigneur, on ne veut pas prendre ça pour notre gloire, mais pour ta gloire, et te la porter devant toi, Seigneur, comme une bonne odeur. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants vraiment de tout ce que toi tu as pu faire, ta présence parmi nous. Et je crois que c'était riche, Seigneur, c'était plein d'amour, c'était plein de bienveillance. Et je crois que ça, c'est ce que nous voulons retenir aussi en dehors de ce magnifique spectacle proposé par les fabricants de joie. Alors Seigneur Jésus, sois béni, et Seigneur, que tu puisses bénir encore ces fabricants, Seigneur, pour l'avenir. Et merci aussi pour Jeunesse en Mission, Seigneur, que tu as mis à cœur de nous soutenir. Alors, Seigneur Jésus, sois aussi avec eux. Amen. Merci.
Je voulais juste encore dire une chose. Donc, mon rôle à moi, c'était de m'occuper de tout ce qui était du repas, des boissons, pour le vendredi dans la préparation, ainsi que le samedi. Et on a fait une vente de boissons et de cakes, et il en reste. Donc, il y aura les restes ici, vous pouvez aller chercher.
Je m'excuse, c'est pas prévu, mais je ne peux pas me retenir. Une chose que le Seigneur a fait hier soir, au dernier moment, c'est Marjorie qui nous a dit, deux filles venaient dans le tram pour aller au spectacle, et parler entre elles, et une a téléphoné à son copain en disant, viens au spectacle, il y a un spectacle magnifique, viens. Et en face d'elle, il y a un garçon de 17 ans qui s'est assis, et qui a dit, mais vous allez où? Et puis vous êtes tout joyeux, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, on va à un spectacle chrétien. Est-ce que je peux venir avec vous? Bien sûr. Le garçon, il est venu, il était dans la salle. Il a dit que le Seigneur l'a interpellé au moment où, pour ceux qui ont vu le spectacle, où un jeune a jeté un cajot par terre parce qu'il était fâché, c'est dans la pièce. Et puis il a dit, à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, ça c'est toi. Mais moi, je veux te changer. Et ce garçon, hier soir, s'est donné la vie au Seigneur. Gloire à Dieu!
Concernant l'offrande, vous avez donc l'offrande habituelle qui se fait au fond de l'église, là, et puis dans le foyer, pour les églises persécutées, les dons, dans une petite boîte, vous pouvez les mettre et ils seront répartis entre différentes œuvres et personnes qui s'occupent de l'église ou qui vivent l'église persécutée. Merci d'avance.
Levez-vous pour la bénédiction. Ça trouve un jour de la dernière d'OVC. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence. Au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité de tout le temps, passé, maintenant et pour toujours. Amen. Bon dimanche.